Amen. Voilà, bonjour à tous. Et donc, on va mettre la diaporama. Donc, heureux de nous retrouver. J'avais ce verset pendant qu'on chantait « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Amen. Amen. Frères et sœurs, il y a tellement de tristesse autour de nous, il y a tellement de situations de souffrance. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. C'est-à-dire qu'auprès de Dieu, nous pouvons trouver réellement la consolation, la force et même, je dirais, la joie dans l'épreuve. Amen, c'est ce que nous avons chanté. Alors, on va continuer à partager sur la notion des semences, hein, dans Matthieu chapitre 13 et on va voir la parabole de l'ivraie du blé. Donc, je vais essayer de prêcher en manière courte parce que derrière, j'aimerais qu'on va entendre deux témoignages d'application de ce message. Et aussi, on aura un temps aussi d'appropriation au travers de la prière. Amen. Alors, vous connaissez, on a médité sur Matthieu chapitre 13, un semeur sorti pour semer. Amen. Dieu est en train d'ensemencer nos cœurs. Et nous avons vu au travers des paraboles du royaume que le royaume de Dieu commence par une semence. Amen. Et notre frère nous a parlé de ce royaume céleste. La source du royaume, c'est le ciel, hein, mais Dieu veut se manifester. C'est d'ailleurs la prière du Notre Père, que ton règne vienne sur la terre. Amen. Vous avez la notion du royaume à venir et vous avez la notion du règne de Dieu, déjà ici-bas. Alors, dans la première parabole, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, et l'autre fois on a parlé de cette bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, et il porte du fruit, un grain en 100, un autre 60 et un autre 30. C'est-à-dire, au départ, c'est notre cœur qui est le champ. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Et on va voir qu'à la fin de Matthieu 13, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils et les filles du royaume. Et on va voir la notion de l'ivraie, ce sont les fils du malin. Voyez? Donc, depuis plusieurs mois, nous sommes ensemencés par la parole de Dieu. Amen. Qui est une parole de vérité qui nous libère. Et nous sommes aussi arrosés par la pluie de l'esprit, par la présence de Dieu. Hein? C'est pour ça qu'on a longuement parlé, il y a, je ne sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines, ce verset de garde ton cœur, hein, parce que l'enjeu, c'est notre cœur, hein, sœur. Amen. Je ne sais pas si vous êtes des fois agressé, oppressé, si vous avez des doutes, si vous avez de l'incrédulité, si vous avez peur. Je suis le seul comme ça, hein. Notre cœur, voyez, nous sommes dans une guerre spirituelle et l'enjeu, c'est notre cœur. Et c'est pour ça que Jean 10, 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Alors nous insistons beaucoup sur, et c'est vrai ça, cette vie en abondance, mais nous oublions qu'on a un ennemi qui s'appelle le voleur, celui qui dérobe, qui égorge et qui détruit. Et c'est pourquoi l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, il nous faut garder nos cœurs, cultiver nos cœurs, au niveau de notre famille, au niveau de nos amis, de nos relations, au niveau professionnel. Et dans cette réalité de la semence, vous savez qu'il y a différents types de terrains. Et donc la négligence, on a vu la superficialité, les soucis de la vie, les séductions des richesses, eh bien, nous amènent à ne pas vivre la plénitude, eh bien, de Christ. C'est pour ça qu'il faut veiller, il faut garder sur notre cœur, hein. Notre responsabilité est de veiller sur les semences qui entrent dans notre cœur. Nos yeux et nos oreilles sont les portes de l'âme. Amen. Donc, qui rentre en semence notre cœur. Et donc, nous prions effectivement que la parole de Dieu, la présence de Dieu. Et pour qu'il y ait une pleine manifestation du royaume de Dieu, qui, je le rappelle, commence par une semence, eh bien, il est très important je dirais, de veiller non seulement notre cœur, mais que notre cœur soit restauré par l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et donc, on a vu, oh pardon, on a vu ce verset que Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Amen. Amen. Hier, avec Marie-Jo, on a fait la visite des hôpitaux, vous voyez. On est allé voir Blanche, on est allé voir Clémentine, tout cela. Et donc, on avait appris aussi le matin le décès de Denise Hussel à l'âge de 87 ans. Je peux vous assurer qu'autour de vous, il y a des cœurs attristés. Il y a des cœurs, je dirais, opprimés. Il y a des cœurs qui sont humiliés. Mais ce n'est pas pour nous élever, mais vous savez, quand je suis en face d'un malade et qu'au bout de quelques minutes, vous ne savez plus quoi faire, quoi dire, je chante des cantiques. Et à ce moment-là, je chante des cantiques, la porte s'ouvre. Comme par hasard, c'est les aides-soignantes qui ont besoin de faire l'attention. Vous n'avez jamais réalisé ça? Quand vous rentrez, vous désirez manifester la réalité du royaume de Dieu, eh bien, on est dérangé. Et après, elle dit « Ah, c'est super ce que vous avez chanté !» Donc, on les laisse, elle part. Et donc, comme j'ai une voix forte, toutes les chambres autour ont chanté avec moi, vous voyez, hein? Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Marie-Jo qui a pris la main de Blanche et qui, dans un regard de compassion, Blanche a pleuré. Et a été visité par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, on fonctionne différemment. Mais quand vous voyez ce cœur de compassion pour ceux, ça c'est le cœur de Dieu, voyez, le cœur pour les esprits. Et moi j'aimerais, ça on va le mettre sur le site, hein, sur Facebook. J'aime beaucoup ça. C'est Spurgeon qui était le pasteur, ce qu'on appelle le prince des évangélistes, donc anglais du 19e siècle. Écoutez ça, si vous mettez en pratique cela, vous allez vivre une vie en abondance, même dans l'épreuve. Contemplez, je vous laisse lire ça, contemplez Christ, procure un baume guérisseur pour toutes les plaies. Je contemple Christ. Et là, l'amour du Christ, la compassion du Christ, ce Christ de douleur, vous voyez, homme de douleur habituel à souffrir, est un baume guérisseur. Méditer sur le Père céleste offre un calmant pour toutes les douleurs. L'amour du Père. Je sais que je ne suis pas seul. D'ailleurs, on a chanté ce chant. Non, jamais tout seul. Et c'est incroyable parce que lorsque vous chantez, ce sont les vieux cantiques qui reviennent. Parce que vous avez été ensemencé lors de votre conversion par différents hymnes. Et l'influence du Saint-Esprit recouvre toute blessure d'un pansement efficace. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une vie, un cœur pleinement restauré, il faut être en communion avec l'amour du Père, la grâce de Jésus et avec la communion du Saint-Esprit. Amen. Je peux vous assurer que ça marche. Contempler Christ procure un baume guérisseur pour toutes les plaies. Et si vous voyez dans cette citation, il est parlé de plaies, il est parlé de douleur, et il est parlé aussi de blessures. Et dans ce monde qui va de pire en pire, de souffrance en souffrance, de tension en tension, de peur en peur, eh bien, on doit apprendre, disons, le chemin, eh bien, de la présence du Père, la grâce de Jésus. Et l'influence du Saint-Esprit. Mais il y a non seulement cette réalité personnelle, individuelle, dans mon intimité avec Dieu, mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un baume guérisseur lorsque des frères et sœurs sont ensemble. Amen. Il y a la notion de la communauté. Vous voyez, un seul cœur. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble, hein, unis ensemble, de joindre leur vie ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui est répandue. Donc il nous est parlé d'une huile parfumée dans d'autres textes. Eh bien, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Lorsque nous sommes ensemble, le Père se réjouit. Et à cause de l'œuvre de Christ, eh bien, l'Esprit de Dieu peut réellement amener ce baume, cette guérison. Comme l'a dit Georges, eh bien, il y a aussi cette sagesse d'en haut, voyez, cette tendresse d'en haut, cette douceur. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous avez ce qu'on appelle la mentalité allélionne, les uns et les autres, s'aimer les uns les autres, s'accueillir, se saluer, prendre soin, se pardonner, voyez. Et on est en plein dans le projet semence. Amen. Amen. On est en plein dans ce projet où on est ensemencé par la parole de Dieu et nous allons le voir, on devient fils du royaume, fille du royaume. Alors, Proverbe 4, 23, garde ton cœur au-dessus de tout, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Donc si notre cœur, et nous devons laisser notre cœur, voyez, être, purifié, sanctifié de tout mensonge de l'ennemi, de tout doute, de toute peur, de tout ressentiment, amertume, colère, tout cela. Et lorsque ce cœur est pleinement restauré, tout le temps, il y a tout un travail de restauration en nous, eh bien, il y a l'arbre de vie et nous portons l'arbre de vie autour de nous et les personnes autour de nous, eh bien, je dirais, sont au bénéfice de ce fruit. Donc ça, c'était un résumé de ce qu'on a partagé. Alors, la parabole de l'ivraie. Donc, dans Matthieu 13, au verset 24 à 33, donc la parabole de l'ivraie du bon grain. Au verset 24, Jésus leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie, donc vous voyez, c'est ça, l'ivraie, eh bien, parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi, vous voyez, c'est un ennemi qui a fait cela. » Et le serviteur lui dit, « Mais veux-tu que nous allions arracher l'ivraie ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. » Eh bien, l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez, l'ivraie, j'ai appris, alors je vous fais grâce du mot latin, mais ça veut dire zizanie. Ah. Et un graminée sauvage ou cultivée comme plante fourragère. Hein. Elle provoque un empoisonnement. Et donc l'ivraie comparé au fils du malin et le blé comparé au fils du royaume. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que l'ivraie, le malin ne vienne pas amener dans nos cœurs, mais aussi dans nos foyers, dans nos relations. Vous voyez, parce que il veut quoi amener? La zizanie. Et là, alors je suis pas du tout un spécialiste, vous voyez, mais j'ai découvert. Vous savez, il y a un verset qui parle. La terre, Marc 4, 28, la terre produit d'elle-même premièrement l'herbe, voyez, premièrement l'herbe, ensuite, eh bien, l'épi, et ensuite le blé bien formé dans l'épi, et enfin le blé bien formé, eh bien, dès que le fruit est mûr, on y met la phocicar, la moisson est là. C'est-à-dire, il y a une croissance, Et vous voyez, il y a une croissance du mal dans le monde, mais il y a une croissance aussi eh bien, de l'Église, des fils et filles du royaume, hein, que Dieu est en train de manifester. Donc vous voyez, il y a un cycle, il y a de croissance qui est là. Et lorsque nous voyons que la moisson est mûre, eh bien, c'est la notion de la récolte. C'est la notion de la récolte. Alors, Jésus explique à ses disciples la parabole, Matthieu 13, versets 36 à 43. Alors il laissa les foules et entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Mais explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. » Vous voyez ? La chance, c'est le monde. C'est plus mon cœur, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes, eh bien, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. que celui qui a des oreilles entende. Amen. Donc au départ, c'est lorsque mon cœur est ensemencé par la vérité, la parole de Dieu, il y a une œuvre de croissance, de multiplication et une œuvre de transformation. Amen. Une œuvre de transformation. Et cette vérité en moi, qui est le Christ en moi, espérance de la gloire, me libère de toutes sortes de craintes, de toutes sortes de jougs, de servitudes. Et donc nous rentrons dans une croissance et alors que nous sommes ensemencés par la vérité qui nous libère, que nous demeurons dans la parole de Dieu, c'est là que nous sommes réellement les disciples, eh bien, nous devenons fils et filles du royaume de Dieu. Amen. Alors, nous devenons enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la... Voilà, hein? À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc cette puissance de vie, cette puissance de résurrection, cette puissance de la semence, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Nous sommes nés de Dieu. La semence incorruptible de la parole est là et nous devons veiller à notre cœur pour éviter que les séductions, la richesse, matérialisme, tout cela, eh bien, tue ou en tout cas étouffe cette parole. Il y a Romains 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Notre frère Pierre-Antoine nous a parlé du servitude de l'Égypte pour être encore dans la crainte. Mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père », l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez l'attestation de l'esprit en vous, hein? Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et quand l'ennemi vient, tu dis « Je suis enfant de Dieu ». Et donc là, il nous est parlé de quelque chose de très important, c'est que l'esprit, nous sommes nés de Dieu, nés de l'esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et là, nous avons l'esprit d'adoption, et par l'esprit d'adoption, eh bien, nous crions « Abba, Père ». Et il y a une deuxième réalité, vous voyez, parce qu'il y a tout le temps la croissance de la révélation. Galates 4, 6 et 7, moi, ce verset m'a totalement transformé et libéré dans mon ministère. Il nous est dit « Et parce que vous êtes des fils ». Donc nous sommes enfants de Dieu et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, pas simplement l'esprit d'adoption, mais l'esprit de son fils par lequel nous crions « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Et je disais, Seigneur, mais je ne comprends pas, après toutes les prophéties, les promesses, je ne comprends pas comment j'entre pas dans les œuvres préparées d'avance dans mon héritage. Et Dieu m'a dit, c'est très simple, parce que tu te comportes comme un esclave. Parce qu'un esclave n'hérite pas, c'est un fils qui hérite. Lorsque tu grandiras dans cette réalité de la révélation, non seulement que tu es enfant de Dieu, mais que tu es fils de Dieu, alors tu rentreras dans ton héritage. Et vous savez quoi? J'ai reçu cette révélation il y a 5 ans. Amen. À partir de 5 ans, tout s'ouvre. Toutes les promesses, toutes les portes s'ouvrent, tous les chemins. Amen. Donc, l'esprit d'orphelin nous rend esclaves, un esprit de servitude. Celui qui est orphelin n'a pas expérimenté l'adoption, ne connaît pas les bras du Père. Beaucoup sont des fils, mais vivent comme des orphelins. Et c'est là qu'il y a un enjeu dans nos cœurs. Souvent, nous sommes dans le sentiment, on en a parlé, le sentiment d'abandon. Et lorsque vous connaissez la réalité que vous êtes fils de Dieu, je peux vous assurer, un verset qui m'a explosé dans mon cœur, c'est l'amour parfait bannit la crainte. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des moments de doute, non, non, mais ça veut dire que la finalité, c'est l'amour de Dieu qui répond à mes pourquoi. Amen. Et j'aime bien mon épouse qui dit, lorsque je serai comme Denis Ussel dort dans le Seigneur, lorsque je serai dans les bras du Père, lorsque je serai dans les bras de Jésus, j'irai sur ses genoux et je lui poserai des tas de questions. Je ne sais pas vous si vous avez des questions. Moi, j'en ai plein. À Korba, on a médité sur Job. Venez à Korba, c'est profond, on y mange bien. Voilà, l'orphelin va tout au long de sa vie lutter contre la peur, la honte et la séparation. L'orphelin a besoin d'un père, il a besoin d'être aimé. Et le père réaffirme notre identité, amène la sécurité et je n'ai rien à prouver, rien à défendre. Je ne me sens absolument pas menacé parce que je sais que je suis en Christ. Le Christ me révèle le Père et le Saint-Esprit m'amène dans cette dimension de l'amour du Père. Amen. Alors, ce que je voulais dire aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que Gabi avait dit concernant le labyrinthe. Eh bien, il avait parlé du labyrinthe, voilà. Labyrinthe, l'enjeu, c'est notre identité. Image du labyrinthe, levez les yeux, hein. Portez, élevez vos têtes, que le roi de gloire fasse son entrée. Levez les yeux, et il y avait, levez les yeux, d'où me viendra le secours, et entendez la voix du Père qui dit, tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a, vous savez, après Jésus, après avoir été, il s'est révélé comme étant le Fils de Dieu tout de suite. Il nous est dit que le Saint-Esprit l'a amené, eh bien, dans le désert. Et la tentation du désert, c'est une tente. L'enjeu était sur l'identité. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça, fais ça, fais ça. C'est-à-dire qu'il y a un combat par rapport à notre identité. Et lorsque nous savons que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, fils du royaume, du royaume, alors là, nous avons, comme disait Georges, de l'assurance. Amen. Ça ne vient pas de nous, mais nous sommes aimés de Dieu, nous sommes en Christ. Amen. Et la vie de Christ est libérée. Alors, le champ, c'est le monde. Puisque dans la parabole, il nous est dit que eh bien, la semence, ce sont les fils et les filles du royaume, et le champ, c'est plus mon cœur, c'est le monde. Et vous avez, c'est important aussi de connaître les racines des mots pour éviter de dire voyez, des erreurs. Deux mots pour le monde, c'est le mot cosmos. Jean 3,16, vous connaissez Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le cosmos. C'est-à-dire, Dieu a aimé les gens, mais il a aimé la terre. Oh, bon, je ne parlerai pas des nouveaux cieux de la nouvelle terre. Ça peut être un sujet qui nous divise. Donc, le cosmos et Aion, vous le trouvez dans Matthieu 13, verset 14. C'est la fin du monde, c'est la moisson. Et ce n'est pas le mot cosmos, c'est le mot Aion, qui veut dire siècle. C'est la fin du siècle présent. Et qui nous introduit dans le siècle à venir. Amen. Oh, il y a une déflagration, ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. C'est l'explosion du projet de Dieu de toute éternité. Amen. La fin de ce siècle va nous introduire dans un nouveau siècle. Amen. Et dans Jean 17, il nous est dit 16 fois... dans la prière, nous trouvons 16 fois le mot cosmos, le mot monde. Ils ne sont pas dans le monde, dans le cosmos, mais ils sont dans le monde, pardon, mais ils ne sont pas du monde, voyez. Alors Jésus, le semeur, sème la semence, fils du royaume, dans le champ qui est le monde. Amen. Et donc nous devenons semence de Dieu dans le monde. Amen. Et la vision du royaume, c'est une église qui sait que sa vision est à l'extérieur de l'église. Tu es semé dans ton foyer, dans ton travail, dans ton quartier, dans ta ville. Voyez, chercher la volonté de Dieu est important. Dieu a préparé d'avance des œuvres liées à ce projet du Père d'étendre le royaume. Amen. Amen, frères et sœurs. Et moi, je me réjouis. Parce que tous ceux qui rentrent dans, ils sont libérés par la réalité de leur identité en Christ, se rassemblent. Se révèle. Et là, on n'est pas unis au travers d'une institution, d'une dénomination, d'une confession de foi. Nous sommes unis dans le Christ. Amen. Et nous sommes fils et filles du royaume. C'est le royaume de Dieu qui vient. Amen. Et ce royaume, Dieu va le manifester en l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'est l'Église avec un grand E, amen, qui est composée de tous ceux et celles. Ce n'est pas l'Église baptiste, l'Église d'Arbiste, Est-ce que vous comprenez? Ça va au-delà. Il y a une église dans Lyon qui se lève. Amen. D'ailleurs, je vous en parlerai le jeudi 10 juin pour ceux qui aiment prier ensemble, prions pour Lyon. Il y a toute une équipe qui vient avec Éric Péchin, avec son épouse, avec Elvire Denis, avec Fabienne Ponce. Et on va prier à l'église de Rieux, on va prier ensemble pour la ville de Lyon. Amen. Le samedi 10 juin, après-midi et soir. Alors, chercher la volonté de Dieu est important. Et donc, comment ça se passe? Et là, je vais accélérer. Nous sommes sel et lumière. Amen. Nous sommes sel et lumière. Vous connaissez Matthieu 5, 13 à 16. Le Seigneur nous appelle à être sel et lumière. Ces versets nous parlent de notre rôle dans le monde. Le monde a besoin d'être salé, de sainteté, d'amour. Amen. Et il a besoin d'être éclairé au travers des valeurs du royaume de Dieu. Amen. Non, là, c'est pas juste ça. Vous voyez? Donc, il y a les valeurs et nous sommes sel et lumière. Alors, nous avons trois choix. Soit nous nous séparons du monde, soit nous nous conformons au monde, ou soit nous influençons le monde. Je dis, Seigneur, moi, je vais être la troisième. Hein? Influence. Mais pour que nous puissions être influencés le monde, il faut que la vérité nous libère. Amen. Que le royaume de Dieu puisse influencer ma vie, ma maison, mes relations dans le travail, voyez, tout cela. Donc, comment briller dans le monde au travers de nos bonnes œuvres? Alors, les œuvres bonnes, eh bien, vous connaissez ce texte, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Je peux vous assurer que vivre une vie chrétienne sans rentrer dans les œuvres préparées d'avance, c'est ennuyeux. Boulot, métro, dodo, voyez, église, réunion. Moi, je ne supporte plus le mot réunion. Chaque fois, c'est une rencontre. Rencontre avec mes frères et sœurs et rencontre avec notre Père Céleste. Amen. Amen. Ayons cette mentalité, voyez. Alors, pour que le royaume de Dieu soit manifesté, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes, et nos œuvres n'ajoutent rien à notre salut, mais notre salut sera manifesté par nos œuvres. Hein. Et donc, les œuvres, c'est ergon en grec, action, travail, concrétisation d'un projet, chef-d'œuvre. Nous brillons par nos œuvres dans le domaine familial, professionnel, associatif, artistique. Amen. Lorsque nous avons acheté un appartement sur Saint-Priest, écoutez bien, Dieu nous a conduits au bout de huit ou neuf appartements. Et à un moment donné, le Seigneur, on a choisi cela. Et écoutez bien, on se retrouve sur le même palier avec une dame qui a 85 ans. Et vous savez quoi? Elle s'est convertie avec le réveil de guérison avec la sœur Gaillard. On se retrouve avec quelqu'un. Dis Seigneur, mais c'est incroyable, c'est pas le hasard ça. Voyez, donc Dieu est en train d'aller et œuvre qui est faite pour la gloire de Dieu. Alors, le poème de Dieu, il y a un mot qui est très important, c'est le mot poema. Eh bien, cela peut se traduire par exécution. On le trouve simplement deux fois dans l'Écriture. Exécution, art, artisanat, création, créativité. Et il nous est parlé du caractère invisible de Dieu, sa puissance et sa divinité sont clairement vues et comprises depuis la création à travers les choses qui ont été créées. Et les choses qui ont été créées, c'est les mots poema. C'est la créativité du Créateur se voit dans son œuvre. La beauté étonnante de la création naturelle est le poème de Dieu. Lorsque quelqu'un dit « je ne crois pas en Dieu », regarde le chant, écoute le chant de la création. Le poème de Dieu se trouve dans la création. Donc, il y a la notion de la créativité. Et j'inviterai Romain à venir pour justement amener cette application dans la vie de Dieu qui est là, la créativité qui est là. Amen. Et le deuxième, c'est les œuvres préparées d'avance. Éphésiens 2, 10. Hein. À travers la création, Dieu montre sa puissance divine, car le travail de la croix, il prouve son amour étonnant. Nous sommes l'art ultime du génie de Dieu. Amen. Alors, si je me soumets au travail de Dieu dans ma vie, si je laisse cette semence, si je veille au matérialisme, si je veille à toutes sortes de séductions, soucis, alors il me transforme en une œuvre d'art magnifique, comme la création physique était bonne et celle de l'homme très bonne. La semence, eh bien, la même façon, le nouvel ouvrage de Dieu dans mon cœur sera excellent. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire, mais vous dites qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, mais moi je vous dis que la moisson est blanche. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Oh, tu te lèves le matin, tu vas au boulot, tu dis, ma nourriture, Père, c'est de faire ta volonté. Saint-Esprit, enseigne-moi, conduis-moi. Amen. Au nom de Jésus, eh bien, je suis gardé, protégé. Vous voyez, la clé, c'est la volonté de mon Père. Dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Amen. Ma soumission, mon obéissance à la volonté du Père vont libérer les œuvres préparées d'avance. Amen. Soumission à Dieu, obéissance, et ma disponibilité donne à Dieu l'occasion de faire un miracle au travers de moi. Et c'est comment Dieu agit. Et j'appelle maintenant Romain. Pourquoi ? Parce que au travers de l'équipe de com, on en a parlé avec Antoine et Gabi, il y a une nouvelle, un renouveau, hein, comme tu as dit, un renouveau. Et on voit déjà, moi j'aimerais qu'on encourage le groupe de louanges. Vous avez vu ? Vous avez le trombone, vous avez la flûte. Amen. Vous voyez, il y a une vie de Dieu, il y a une créativité de Dieu qui est là. Amen. La vie est en train de pousser, frères et sœurs. C'est la vie de résurrection. Et aussi dans l'équipe com.